savais pas, mais 24 heures sur 24, il y a de la musique ici et des chants. Alors, comme on ne peut pas être, nous, tout le temps, 24 heures sur 24 ici pour chanter, dans un premier temps, on met de la musique sur une clé USB et on dit, bah, Seigneur, c'est ton lieu, que 24 heures sur 24, il puisse y avoir de la musique et des chants de louange. Et donc, sur cette clé USB, il y a des chants en français, en arabe, en anglais, en arménien, etc., en russe, en africain, je suppose aussi, mais voilà, Seigneur, on y sera forcément en hébreu. Et on dit, ben, Seigneur, c'est un lieu où nous souhaitons que, même si nous ne sommes pas là, que ce soit un lieu où il y ait des louanges et des adorations. Ok. Cet enseignement est pour tous les chrétiens, mais, quand je dis mais, c'est qu'il a une connotation un peu particulière pour la communauté du Colombier. Mais c'est pour tout le monde. Mais c'est aussi pour nous. Mais c'est pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez compris. Je voudrais parler ce matin, ou enseigner, ou partager sur la justice sociale et sur les pauvres. Cette semaine, un pasteur partageait son expérience. Il avait été demandé à... On lui a dit, est-ce que tu pourrais pas prendre en charge cette église dans telle ville? Et on lui avait dit qu'il y avait du monde. Sauf que, en réalité, ils étaient 16. Et ils étaient 16 dans un bâtiment de plus grand que celui-là. Donc il y a été. Et il dit, et il raconte que, pendant 6 ans, ils n'ont été que 16. Année après année. Et il nous disait, enfin, disait, mais c'est, vous savez, c'est long. Parce qu'on se pose des questions. Est-ce que moi, en tant que pasteur, disait-il, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai vraiment un ministère? Est-ce que c'est le ministère que le Seigneur veut, etc. Enfin bref, il se posait lui-même plein de questions. Et il disait que c'était franchement pas très facile à vivre. Et puis, un jour, il reçoit un coup de téléphone. Il dit, je suis incapable de dire de qui. Mais la personne, et je ne sais pas pourquoi on s'est adressé à moi et à nous en tant qu'Église, mais ce que je sais, c'est que au bout du fil, la demande, c'était... Est-ce que votre église pourrait recevoir, c'est-à-dire héberger, s'occuper d'une famille de frères et sœurs qui viennent de l'Algérie parce qu'ils sont persécutés là-bas? Ils sont en France, mais ils sont quelque part SDF. Alors, bon, on va y réfléchir et l'église de dire, mais nous ne sommes que 16. On est petit, on n'a pas de moyens financiers, on n'a pas trop de moyens, etc. Enfin bref, et combien de temps ils vont rester? Puis on ne connaît pas cette famille. Enfin bref. Vous pouvez comprendre, voir à peu près, ou en tout cas imaginer les raisonnements, les questions. Et à un moment donné, ils ont pris la décision en disant, mais nous ne pouvons pas laisser cette famille déracinée de son pays et vivant la persécution quelque part, on ne peut pas les laisser comme ça, donc on ne sait pas comment on va faire, mais on va les accueillir. Ils ont accueilli, et il dit, dans la même année, il y a des gens qui sont venus dans l'église, non pas par déménagement ni d'autres églises. Mais des gens ont commencé à fréquenter notre église, on ne sait pas d'où, mais au fur et à mesure, les personnes se sont tournées vers le Seigneur. Et il dit, il y en a eu 5, il y en a eu 10, il y en a eu 30. C'est une église qui comporte maintenant 200 ou 250 personnes. Et il conclut son propos en disant « Pour moi, il n'y a pas de coïncidence. À partir du moment où nous avons accueilli celui qui avait besoin, le Seigneur s'est manifesté au milieu de nous. » Je vous propose une minute de silence pour y réfléchir. Il disait avec gravité, c'est à partir du moment où nous avons ouvert notre cœur à l'accueil de celui qui souffrait que Dieu a augmenté le nombre de personnes. C'est comme s'il avait testé nos cœurs à l'accueil du pauvre avant d'envoyer du monde à l'assemblée, entre trois petits points peut-être, où je traduis sa pensée. C'est comme si le Seigneur nous testait avec une famille pour savoir si on était capable d'en accueillir d'autres. Justine, ministère prophétique qui est venu au mois de mars, nous a partagé plusieurs points qu'il recevait du Seigneur et selon son terme. Il s'est levé à 2 ou 3 heures du matin et le Seigneur lui a téléchargé des pensées pour notre communauté. Et il nous a dit, ça c'est la première chose que le Seigneur met en avant. La justice sociale et les pauvres. C'est la première chose, dit-il, que le Seigneur met en avant. Je l'ai mis par écrit pour que vous puissiez mieux suivre. Le Seigneur a à cœur que vous exerciez le ministère auprès des pauvres dans votre ville. J'ai vu que vous faisiez de la soupe. En tout cas, que vous donniez à manger et que vous viviez des temps de ministère dans la rue. Et pour qualifier ce que je viens de dire là, Ça ne veut pas dire que vous allez éplucher des légumes et faire spécifiquement de la soupe, d'accord ? En fait, ce que je reçois du Seigneur, c'est que c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est quelque chose qu'il faut transférer aux besoins de votre ville. L'idée, c'est d'aller rejoindre les gens dans la rue. Rejoindre les gens là où ils sont, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Je reçois aussi que le Seigneur veut vous donner la promesse d'Ésaïe, chapitre 58. Hop, pardon. Si vous êtes prêts à accomplir les conditions qui sont attachées à cette promesse. Je l'ai mis en rouge parce que il y a un conditionnement à la promesse ou aux promesses du Seigneur. C'est que la condition, c'est qu'on écoute ce qu'il nous dit et qu'on va dans le sens qu'il nous dit. Que dit le texte ? C'est le Seigneur qui parle et qui dit « Le jeûne qui me plaît, c'est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec celui, avec ceux qui ont faim, et d'offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. C'est de donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, mais peut-être alors seulement, alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras l'Éternel, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si, du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants. Et Justine de continuer à dire « Pour moi, c'est la première plateforme, la principale, celle du lancement. Si vous ne vivez pas quelque chose au niveau social, je ressens que c'est là-dedans que le Seigneur vous attend et vous invite. C'est aussi être connecté avec Ésaïe 61. Oui, avec tout noté. L'Esprit du Seigneur est sur moi, comme l'a cité Jésus en Luc, chapitre 4. Pour quel but ? Pour libérer les opprimés, les captifs, redonner la vue aux aveugles, etc. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur mise en liberté, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Trois petits points, il y en a encore. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. En fait, disait-il, Justine, ou le Seigneur au travers de lui, en fait, vous devez avoir l'onction de Dieu pour faire toutes ces choses-là. Et le premier point pour avoir l'onction, c'est cet aspect social et de justice sociale que le Seigneur met en avant. Va à la rencontre de l'autre, ne te détourne pas de l'injustice et du pauvre. Chaque mois, nous avons donc une émission sur RCF et on avait préparé un texte à lire et puis finalement j'ai pas retrouvé. Je crois qu'on l'a pas lu. On avait préparé un texte qui était assez compliqué, assez difficile. D'ailleurs, Daniel disait waouh. Finalement, je sais pas si on l'a supprimé ou pas. Mais, tout d'un coup, en préparant cet enseignement avant-hier, hein, c'est très récent la préparation, c'est tout d'un coup comme si ce texte que je voulais apporter au travers des ondes s'était transformé pour qu'il soit lui ici. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. Notre traduction, éloigne de moi le tumulte de tes chants. Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques. Fais-moi grâce du bruit de vos cantiques. Je ne peux plus entendre le son de vos harpes, de vos luttes, de votre musique. Laissez plutôt libre cours au droit, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. Une autre traduction dit que le droit jaillisse, que la justice coule comme un torrent. Ce texte que je voulais apporter aux autres en disant, les amis, les auditeurs qui m'écoutaient, écoutez ça, mais tout d'un coup, comme un boomerang, ça revient et ça vient chez nous. Cesse de brailler. Je ne crois pas que ça veut dire qu'il faut arrêter la louange et l'adoration. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Blaise, autre ministère prophétique qui sera avec nous en présentiel au mois de septembre, nous disait que le Seigneur allait se servir de la louange et de l'adoration dans l'Église pour qu'on puisse le glorifier. Votre musique va pouvoir être une bénédiction au-delà des murs de votre Église. Et il disait entre autres, vous allez vous éclater dans la présence de Dieu, et souvent il va y avoir une complicité, je suppose une complicité entre le Seigneur et nous, et entre nous et tous ceux qui seront au bénéfice de cette louange. Ce que je veux dire là, c'est que, en tout cas ce que le texte dit, c'est que le Seigneur en a ras-le-bol d'entendre la louange et l'adoration, et il en a, c'est pas qu'il en a ras-le-bol, c'est qu'il en a ras-le-bol de voir que on se sert de la louange, de l'adoration, etc., pour dire on te sert, alors que lui, il dit, moi ce que je veux, c'est que tu t'occupes du pauvre. C'est pas l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais il faut que tu t'occupes des autres, il faut que tu t'occupes du droit, et tu ne peux pas, je ne veux pas que tu te contentes juste de venir louer en disant « Waouh, super, ce matin on avait une belle louange ». Parce que lui, le Seigneur dit « Mais moi ce qui m'intéresse c'est que tu fasses et tu vives la justice sociale et que tu t'occupes du pauvre et que tu t'occupes de ceux qui ont des problèmes et des soucis à l'extérieur. » Il semble qu'il y ait une priorité. Michée 6:8. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter le droit des autres, d'aimer agir avec bonté, et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Je suis assez perplexe, parce qu'il y a, il y a comme un ordre. Ce que je demande de vous, premièrement, c'est que vous respectez le droit des autres. Deuxièmement, c'est que vous puissiez agir avec bonté. Agir avec bonté. Non pas agir parce qu'il le faut, mais agir parce que vous avez le cœur qui va avec. Et ensuite, que vous puissiez marcher dans le chemin. Vendredi après-midi, je suis allé apporter et partager la scène à un couple de tziganes. Ce couple de tziganes m'avait demandé... Dimanche dernier déjà. Donc dimanche dernier, je leur ai dit, ben non, je peux pas, mais je viens pendant la semaine. Mais je disais à Daniel, ça me peut plaire, quoi. Ça m'agace. Ça m'agace parce que ce couple âgé, qui fait partie d'une assemblée, ben... il peut pas bouger parce que le frère, il a un truc de respirateur d'oxygène, etc. Enfin bref, voilà. Et je me disais, mais punaise, ils ont une église. Il y a plusieurs pasteurs dans cette église-là. Ils pourraient y aller. J'ai pas que ça à faire. Au point que Daniel me disait, si tu vas porter la Sainte-Seine à ce couple dans cet état-là, et paf, tiens Bernard, hop, ménage pas hein, la petite dame. Oh. J'ai pris le temps. Je suis allé vendredi avec joie apporter la scène, vous partager la scène avec ce couple de personnes âgées et de prier pour eux. Ils ont 80 et quelques années. Et en rentrant, il y a un mot qui m'a secoué. Pourtant, je connais bien. Hein. Et il n'arrêtait pas ce terme, ce mot de circuler en moi. Et ce mot, c'est considération. Considération dans le sens de comprendre l'autre, de prendre soin, d'avoir égard pour l'autre, de l'estime et du respect. C'est comme si le Seigneur était en train de me dire, tu vois Bernard, je souhaite que vous me preniez en considération, que je sois et non pas que je devienne une priorité, non seulement pour mon œuvre dans l'Église, mais que vous soyez, que vous me preniez en considération pour moi, c'est-à-dire pour ceux qui m'importent. Pour ce que je pense et pour ce que je suis. En fait, j'avais l'impression que le Seigneur disait « Arrêtez de faire comme vous avez l'habitude de faire parce que c'est comme ça que ça se fait dans les églises, mais prenez en compte ce que moi j'ai envie. Et si... Bernard, je vous dis que ma priorité, c'est celle-là, eh ben, que votre priorité soit pas juste de dire, ben, on va faire une belle louange. Ok pour la belle louange, mais c'est pas seulement ce que je veux. Arrêtez de faire le tri dans vos pensées de ce que vous pensez être la priorité. Alors j'ai souri un peu parce que lorsque j'avais choisi le texte « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande et Dieu vous accordera aussi tout le reste », j'ai souri parce que j'avais déjà préparé lundi ou mardi ce texte pour l'apporter en introduction. Alors j'ai souri, j'ai dit « Waouh Seigneur, t'es balèze quoi ». Vous comprenez, il ne s'agit pas seulement de servir, je vais dire ça autrement, il ne s'agit pas de se servir de la détresse humaine pour se faire un nom, une notoriété, un faire-valoir, mais de servir l'être humain lui-même, sa personne. Pourquoi ? Parce que c'est ça que le Seigneur fait aussi avec nous. Il ne nous attire pas à lui pour nous avoir dans son escarcelle. Il nous attire à lui parce qu'il veut nous faire du bien, parce qu'il nous considère, parce qu'il nous respecte, parce qu'il nous aime. Le deuxième point, c'est je souhaite que vous preniez en considération la personne humaine, donc pour qui elle est. Ce n'est pas seulement de leur donner du pain qui est important, mais de faire attention à leur personne. Si tu pratiques la justice, ce n'est pas pour un faire-valoir, je disais. Ce n'est pas pour dire que tu fais des choses justes et que dans l'Église, il y a une action sociale. Le Seigneur, il s'en fout de notre notoriété, plus encore de notre orgueil qu'il veut changer, transformer, parce que c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Si tu pratiques la justice, c'est pour que tu fasses du bien aux autres et que tu transmettes aux autres la justice de Dieu. Que tu rendes la justice en son nom. Car il aime que l'on considère les autres. Il aime la considération de la personne humaine, que la personne devienne chrétienne ou non. On ne vit pas une action sociale pour dire « Je vais attirer les gens par l'action sociale pour qu'ils se convertissent. » C'est nul. En tout cas, ce n'est pas ça que le Seigneur demande, ce n'est pas ça qu'il veut. C'est comme si le Seigneur nous disait, moi, et je me répète consciemment, moi j'ai de la considération, de l'empathie, de l'amour, du respect pour la personne humaine, et je souhaite, je veux, je demande que vous ayez les mêmes sentiments pour ceux qui vous entourent. Faites droit aux autres. Et je me suis rappelé hier que c'était un peu le message que nous avait aussi apporté Denis Drugeot, vous vous rappelez peut-être, sur Ebed-Melech, qui a mouillé sa chemise, qui a pris des risques pour Jérémie, que le roi avait mis dans une citerne et qui l'avait emprisonné. Il a pris soin de lui malgré les risques. Alors que Ebed-Melech était un eunuque, un genre d'esclave. Et il a été voir le roi en disant « c'est pas bien ». Les pauvres, ce ne sont pas ceux, ou pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent, mais ce sont les laissés pour compte, les rejetés, les abandonnés, tous ceux qui ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, d'être pris en compte. La justice, c'est d'être juste. Nous avions une action sociale au travers de la fraternité. Pour des raisons très diverses, nous avons arrêté notre distribution alimentaire. Pour des raisons diverses, nous avons demandé à une autre église de s'occuper d'une banque alimentaire spécifique pour les étudiants. Mais je me rappelle au moins deux choses. C'est que souvent, il était obligé de rappeler à l'église que l'association en elle-même n'était pas non plus le faire-valoir, c'est-à-dire, oh, il y a une action sociale qui s'appelle la fraternité, et ben, quand je vais rencontrer un SDF ou quelqu'un qui va pas bien, je vais l'envoyer à la fraternité. Et on était toujours obligé de dire, punaise, arrête, occupe-toi, toi, de la personne que tu rencontres. arrête de vouloir dire, ben, je vais faire une action sociale. Toujours très facile, hein, de dire aux gens, je vais te donner un coup de main, je vais téléphoner à qui pour que la personne va s'occuper de toi. À un moment donné, faut quand même m'arrêter et puis dire, ben, si le Seigneur me demande de m'occuper des autres, je vais pas à chaque fois refiler aux autres la responsabilité de comment faire, comment vivre le social et comment aider la personne. Donc c'était une chose qu'on était obligé de rappeler souvent. Alors on peut dire, on n'est pas capable, etc. Enfin bref, j'entends bien tout ça, mais c'est pas comme ça que le Seigneur veut que l'on fasse. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on a été voir à la mairie pour leur dire, écoutez, on va arrêter notre distribution alimentaire, on n'arrive plus à être en osmose. Alors c'était pas la seule raison, mais personnellement, alors c'était peut-être que moi, j'en sais rien, mais j'ai demandé et redemandé et encore à ce que les Restos du Cœur, le Secours Populaire et la Banque Alimentaire se mettent en accord pour qu'on puisse croiser les fichiers, pour que les gens n'aillent pas prendre. Parce que à l'abribus, il y avait de la nourriture que les gens venaient de chercher. Ça m'insupportait. Mais ce n'est pas que la seule raison. Et donc, nous avions dit aux responsables, aux l'adjoint au maire, etc. J'ai dit, écoutez, on a, en ce moment, on n'est plus en osmose, ça coince. On n'a pas envie de faire de l'action sociale juste pour exister socialement dans le paysage angevin. Donc on va arrêter, mais on va arrêter en prenant attention à ce que les personnes puissent trouver un autre lieu d'accueil pour trouver de la nourriture. Et nous, nous allons essayer de trouver quelle autre action sociale nous pourrions faire. Nous en sommes là. On en est toujours au même point, sauf que maintenant, le Seigneur dit, bouge-toi. Ce temps-là, où tu étais à l'arrêt, ça se termine. J'avais terminé mon enseignement hier, vers 15h30, enfin la préparation. Je me sentais un peu épuisé. Je me dis, punaise, je suis rarement épuisé quand je prépare un enseignement, quoi. Hein. Je suis allé prier aux ardoisières. Ah, Seigneur, Seigneur, tu sais, c'est pas une question de moyens. Ma préoccupation, c'est plutôt de savoir quoi faire. Seigneur, ne nous engage pas dans un chemin de justice et d'action sociale si nous n'y voyons pas plus clair. Et la réponse du Seigneur, ça a été, eh ben Bernard, c'est trop tard, parce que je vous ai déjà engagé sur ce chemin-là. C'est le premier point que je vous demande sur les 6. C'est le premier point que je vous demande de mettre en œuvre. Je vous ai déjà engagé. Et moi de répondre, ben punaise, t'es gonflé, Seigneur. T'es gonflé. Et le Seigneur doit dire oui, peut-être. Mais tu aspires à des promesses. Tu veux prier pour les malades et tu veux les voir guéris. Tu veux voir une action de mon esprit dans la vie des gens, ah ben ça commence par là. C'est pas à toi de décider par où ça commence, mais c'est moi qui décide. Ah Seigneur, on pourrait pas plutôt chanter des cantiques au culte? plus facile. Au point où nous en sommes, que faire? Nous avons demandé aux personnes de s'inscrire s'ils le souhaitaient concernant des thèmes que nous avons vus en rencontre communautaire, 9 thèmes différents, dont celui de l'action sociale. Il faut être pratique et pragmatique. Vous avez été 8 à vous inscrire pour ce thème de la justice et de l'action sociale. Je vous propose de nous retrouver cette semaine à 17h ou 17h30 ou 18h, mardi ou lundi, enfin demain donc, mardi ou mercredi, éventuellement vendredi, mais... Et puis on va prendre un temps pour prier, et on va peut-être prendre d'autres temps pour prier, mais en tout cas nous allons demander à ce que le Seigneur nous révèle, nous montre comment commencer, comment faire, comment se mettre en route. Mais prions. Prions pas seulement en disant « le Seigneur va peut-être nous révéler », c'est prions pour nous mettre en route et en marche. Et au travers de notre marche, le Seigneur nous conduira et nous dirigera. Donc je suis assez pragmatique. Qui veut être là à cette rencontre? Ok, ouais, voilà, merci. Quelle heure? 17h? Peu importe. 17h. Lundi, mardi ou mercredi? Non, pas jeudi. Jeudi, il y a la maison de prière. Vendredi? Pardon? Vendredi, il y a une rencontre pour les jeunes. Alors, il vaudrait mieux que ce soit... Lundi, bon. Mercredi? Qui c'est qui a dit, pas moi? Ouais. Mardi, tu préfères? Lundi non plus. D'accord. Ben, faut qu'on détermine. Donc, mercredi à 17h. Ça vous va? Eh ben, on se retrouve ici. Mercredi à 17h pour prier. Et je vous invite à conclure ce temps par la prière. Je suis conscient que c'est...